أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de gré les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, on rappelle qu'il est important de mettre la bonne intention pour avoir les récompenses. Donc, la croyance au châtiment de la tombe en sa félicité et en l'interrogatoire donc des deux anges, Munkar et Nakir. Donc, bien sûr, déjà, c'est confirmé selon l'unanimité, le supplice de la tombe. Et le renier, c'est de la mécréance. Parce que justement, en ce moment, il y a des gens. Entre guillemets, à la mode, ils renient ça. Certains soi-disant docteurs sur YouTube et tout, et les gens souvent ils posent des questions sur ça. Donc, moi ça m'a déjà arrivé, les gens ils posaient des questions sur ça, et donc ils renient, donc certains ils ont renié, et c'est ça de la mécréance. Donc, alors, bon, on va voir les preuves, les hadiths, moi j'avais cité à ces gens-là, et ils comprenaient pas. Après, la preuve que je donnais, c'était devant des gens, c'était. Et dans le doua, dans le hadith du prophète, très connu chez les musulmans, avant de passer le salam, il dit wa'a'udhuka min 'adhab al-qabr, c'est-à-dire je demande la préservation de Dieu contre le châtiment de la tombe. Donc dans l'assemblée, tous les gens ils connaissaient ce hadith-là et c'est connu dans la prière. C'est-à-dire le prophète il a enseigné de demander la préservation contre le châtiment de la tombe avant de passer le salam. Donc c'est connu d'évidence. Donc le renier, c'est de la mécréance. Châtiment de la tombe. Donc c'est une preuve simple, par exemple ça. C'est que le prophète, il a enseigné, juste avant de passer le salam, de demander la préservation contre le châtiment de la tombe. Donc le châtiment de la tombe, c'est pour le mécréant et certains musulmans désobéissants. Comme notamment... Le prophète, alayhi salatu wassalam, met en garde contre le fait de souiller avec l'urine des libérimas. Et là, c'est un grand péché, ça fait mériter le châtiment de la tombe. Alors, istanzihu min al-bawli fa inna hamata 'adhab al-qabr minhum. C'est-à-dire, préservez-vous de l'urine, car la plus grande cause du châtiment de la tombe, donc pour les musulmans, c'est... le souiller avec le riz. Parce que pour le mécréant, c'est déjà pour la mécréance, il sera châtié. Donc, Allah Ta'ala dit An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Donc c'est sourate Al-Mu'minun, ayah 46. Donc il signifie le feu l'aurait exposé le matin et en fin de journée et le jour où arrivera l'heure, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans le plus intense châtiment. Donc ils sont basés sur ça les savants pour dire qu'il y a le châtiment de la tombe entre autres. Donc avec les autres preuves, parce que ils ont dit, c'est dit le sens du verset, le feu l'aurait exposé le matin et en fin de journée. Donc et ça c'est pas dans cette vie. Et donc forcément c'est où? C'est une autre étape, ce qui est donc il y a la vie, il y a le barzakh, il y a l'au-delà. Barzakh c'est l'étape qui est entre la mort et la résurrection. C'est la vie dans la tombe, entre guillemets. Donc là, il y a c'est là qu'il y a le châtiment de la tombe, la félicité de la tombe aussi. Donc, parce que dans la suite du verset, il est dit ce qui a pour sens, et le jour où arrivera l'heure. Donc ça veut dire, ça ne parle pas ici de... le dollar. Donc ça parle d'une étape, ça parle pas, on le voit pas ils sont pas exposés, les mécréants, même Pharaon n'était pas exposé au feu au matin et au soir. Donc, pendant la vie. Donc, si c'est pas pendant la vie, si c'est pas dans l'au-delà, donc c'est forcément entre l'étape intermédiaire, à savoir dans la tombe. Donc, le verset, on répète, il signifie le feu, le riz exposé le matin et en fin de journée. Et le jour où arrivera l'heure, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans le plus intense des châtiments. Qui ont suivi Pharaon, donc dans sa mécréance. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? C'est clair? Donc, et il y a le verset, un autre verset, dans Sourate Taha 124. Allah Ta'ala dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, qui signifie: celui qui se détourne de mon appel mènera certes une vie difficile. Là, c'est un hadith aussi. Il y a un hadith qui explique le verset par contre. Ce qui est visé par une vie difficile, c'est le châtiment de la tombe, c'est-à-dire leur état dans le barzakh, la période après la mort et avant la résurrection. Donc ces deux ayats concernent le châtiment de la tombe pour les mécréants. Donc dans le deuxième, donc on a dit dans le deuxième verset, c'est le hadith. Il y a un hadith du prophète qui explique ce qui est visé par la vie difficile. Ma'ishatan danka, il a expliqué cela. Donc il y a certains versets, le prophète les a expliqués. Donc ça c'est pour les mécréants. Il y a des hadiths aussi, on verra, inshallah, pour le mécréant. Voilà, sur le châtiment de la tombe. Quant aux désobéissants parmi les musulmans qui commettaient les grands péchés et sont morts avant de s'en repentir, ceux-là sont de deux sortes. Parce que si on se repent d'un péché, le prophète, alayhi salam, il a dit Atta ibn al-zambi, kamal la zambala. C'est-à-dire, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait. Avec les conditions du repentir. Mais on parle de ceux qui sont morts et ils ne sont pas repentis. Donc, il y en a à qui Allah épargne le châtiment de la tombe, et ceux qu'il fait subir un supplice qui s'interrompra et reporte le reste du châtiment le jour dernier. Voici donc ce qu'ont rapporté Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Nasa'i, d'après Ibn Abbas. Donc, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Nasa'i, d'après Ibn Abbas, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, le messager de Allah, donc il raconte à Abdullah Ibn Abbas, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est passé par deux tombes. Il a dit, donc Dieu lui a dévoilé l'état. Dieu dévoile à qui veut l'état de ce qui se passe. Donc, il a dit « Innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kabir ithm » Ce qui signifie « Ils subissent un châtiment pour quelque chose qui ne paraît pas très grave aux gens. » Donc, il a fait une tournure, le prophète, pour montrer que, aux yeux de beaucoup de gens, ce n'est pas un grave péché. Mais, il a dit « Bala » c'est-à-dire « Bala » c'est-à-dire « si » en réalité « si » C'est un grand péché. Il a dit « Bala » أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. Ce qui signifie si l'un, c'est-à-dire si pour dire en réalité c'est un grand péché, l'un des deux rapportait la parole des uns aux autres pour semer la discorde. Donc c'est ce qu'on appelle namima. Donc c'est cité. Elle consiste à dire à quelqu'un, donc rapporter la parole des musulmans entre eux pour semer la discorde. Dire à quelqu'un, un tel a dit de toi telle chose. Et de dire à cet autre, un tel a dit de toi sur toi telle chose. Ceci afin de semer la discorde entre eux. Il va rapporter, il entend la réponse de l'autre et puis il rapporte. Donc, c'est fait la discorde. Tandis que l'autre, il ne se protégeait pas de l'urine. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça fait hériter le châtiment de la tombe. Ensuite, il a demandé une palme encore verte qu'il a fondu en deux et on l'a planté une moitié sur chacune des deux tombes. Palme de palmier, en fait. Et il a planté. Et il a dit, « La'allahu yukhaffafu anhumah » ce qui signifie peut-être leur supplice en sera-t-il allégé. C'est-à-dire, ça montre aussi que ce qui est connu chez les musulmans, de planter des arbres, des vers sur les tombes. Et Nao, il cite ce hadith-là comme preuve. Il a dit, si on espère l'allègement par une plante, alors que dire musulman qui récite le Coran. Donc, pour le musulman, donc. Oui.
Il n'y a pas aussi des paroles, parce que j'ai entendu qu'une fois, il y avait, je ne sais pas, ils voyaient de la fumée sortir d'une tombe, et ils ont dit que, ils ont prononcé des paroles, et que la fumée, elle est...
Ah, oui, c'est, bien sûr, ça arrivait, ça, dans... ouais, ça arrivait, donc, dans des cas, dans l'histoire musulmane, en tout cas, que... Il y a des gens qui étaient désobéissants, puis il y a la fumée qui sortait à cause des péchés qu'ils faisaient. Et ils récitaient le Coran et ça partait. Ça arrivait, oui. Ils demandaient pardon pour lui, pour les péchés qu'il a lésés, les gens, en fait. Et donc ils demandaient, ils allaient, sa famille, s'excuser pour lui. Et puis ils récitaient le Coran. Donc ça, c'est parmi preuves, il y en a beaucoup d'autres. Que c'est utile, on a été, ça c'est un exemple qui montre que les musulmans vivants peuvent être utiles pour les musulmans morts.
D'accord.
Donc ça c'est à l'opposition, au contraire de ce que disent les gens, les wahhabis, etc., les gens qui ne suivent pas la voie sunnite et qui prétendent qu'on ne peut rien faire pour le mort musulman. Pour le même écrit, on ne peut rien faire. Le mort musulman, déjà le prophète il a dit de faire la prière funéraire, de réciter Yassin. Donc c'est utile. Pourquoi on fait la prière funéraire pour les musulmans? Parce qu'il y a une utilité. Donc ça c'est, on cite ça pour comme ça vous avez des arguments, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui renient ça, etc.
Celui ça veut dire un musulman qui est mort sur la mécréance. On peut pas ça veut dire lui faire citer les deux témoignages quand il est dans sa tombe. Bien.
Non. Là c'est d'origine musulmane, tu veux dire?
Oui, d'origine musulmane.
D'accord, d'origine musulmane. Oui, bah, c'est trop tard. Quand il meurt, c'est trop tard.
Mmh.
On peut, quand il est vivant, quelqu'un d'origine musulmane qui est apostasié, on peut, c'est quand il, avant la mort, quand il agonise, on peut essayer de l'expliquer. Ça arrivait, il y a des gens, ils sont revenus. Il y a des gens, à l'époque du prophète, ils sont convertis. Mais... quand quelqu'un il meurt mécréant, bah c'est trop tard. Le prophète, salam, son oncle, il est mort. Par exemple, l'exemple de Abu Talib, il est mort mécréant. Et le verset était clair. Allah dit dans le Coran, quand Abu Talib il est mort, donc le verset, ma kana al-nabi wa alladhina amanu an yastaghfiru al-mushrikina wa law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Donc, c'est-à-dire, il est interdit au prophète ainsi que aux croyants de demander pardon pour ceux qui meurent donc mécréants, même s'ils sont proches famille.
Parce que j'ai entendu qu'on pouvait faire citer les deux témoignages.
Non, ça c'est pour les musulmans.
Ah, même s'ils sont dans la tombe.
Oui, pour les musulmans, oui, c'est connu.
D'accord.
Pour les musulmans. Parce que c'est connu. Donc ça revient les bases.
Mm-hmm.
Les bases musulmanes, c'est que si tu meurs, ça y est, tu ne peux plus agir.
Oui.
Tu ne peux plus agir. C'est connu. Et d'ailleurs, même avant la mort, il y a des choses que c'est trop tard. Comme le soleil se lève sans couchant. Même s'il veut, il prononce des témoignages pour se convertir, ça ne sera pas accepté. S'il se repent, ça ne sera pas accepté. Pharaon, il n'était pas mort encore vraiment, mais il était désespéré de la vie. Quand il était dans les vagues, il a dit « Amantu billadhi amanat bihi banu Israïla wa ana minal muslimin ». Il a dit, j'ai cru en ceux en quoi ont cru les fils d'Israël et je fais partie des musulmans.
Ah,
mais ça n'a pas été accepté, pourquoi? Parce que c'est le cas de désespérer de la vie. Et des cas, ce qu'on appelle désespérer de la vie, il était dans les vagues, ça y est. Donc quand on arrive à un cas où on désespère la vie, c'est plus accepté. Ça c'est normal. Quand on voit l'ange de la mort, c'est plus accepté. Et bah, quand on meurt, c'est encore moins. D'accord ? Ça, c'est vraiment les bases. Parce que, en réalité, après la mort, Tout le monde va savoir la vérité, même les mécréants, ils vont plus croire en leur mécréance. Ils vont avoir la bonne croyance, mais ce sera trop tard. C'est pour cela qu'il y avait un savant, Abu Hanif ou autre, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui rentre au paradis en étant mécréant. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre en enfer en étant mécréant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tous ceux qui vont rentrer en enfer, ils auront la bonne croyance au final. Mais, dans le moment, il n'est plus accepté. C'est ça. Il y a un moment, c'est plus accepté. Comme l'exemple simple, quand le soleil se va se lever, il est vivant, il parle, etc. Il se reprend, ça ne sera plus accepté. Il se convertit, il ne sera plus accepté. Il saura la vérité, mais il ne sera pas accepté. Comme dans le... Et donc, non, je me rappelle le verset... Donc, c'est-à-dire, il y a des versets, donc par exemple, dans ce verset, dans sourate Al-An'am, Allah dit dans le Coran, « Hal yanzuruna illa an ta'tiyahul malaikatu au ya'ti ya rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu au أو كسبت في إيمانها خيرا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. C'est-à-dire, même s'il y croit, dans ce cas-là, ça ne sera plus accepté. Dans les cas qu'on a cités. Par exemple, et puis quand dans l'au-delà, ben, ils sauront qu'ils étaient dans l'erreur, etc. Mais ça sera trop tard. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment les règles de base. D'accord ? C'est vraiment la base de la loi de Dieu. Que il y a des temps, c'est plus accepté. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est important. Donc, vraiment, c'est les bases de la religion. Que la personne, c'est trop tard quand elle meurt. Si elle meurt, bien sûr, pubère, c'est un esprit qui a entendu la base de l'appel islam. Mais s'il meurt, il n'a jamais entendu la base de l'appel islam, même s'il était mécréant, il va au paradis. Il a vécu dans une jungle, il a vécu dans une période où il n'y avait pas de prophète, comme ceux qui ont vécu avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, certains, ils ont entendu l'appel à l'islam des autres prophètes, et d'autres, ils n'ont pas entendu. Donc, alors que chacun, ils adoraient des statues. Certains, ils vont au paradis, d'autres non. Ceux qui n'ont jamais entendu des prophètes, qui ont adoré les statues, ils vont au paradis, parce qu'ils n'ont pas entendu des prophètes. Les prophètes avant, Ismaïl, Isa, Ismaïl qui était prophète à la Mecque, Isa. D'autres, ils ont entendu de Isa qui a appelé à la vraie croyance. Quand on dit entendu l'appel de Isa, la vraie appel de Isa. La vraie appel de Ismaïl. Donc, parce que si quelqu'un il a entendu Isa, il a appelé il a entendu que soi-disant Isa, il a appelé à l'adorer, on ne dit pas qu'il a entendu l'appel à l'islam. Mais il y en a, ils ont entendu l'appel à Isa qui a dit d'adorer Dieu. L'unique qui n'a pas d'associé. Ceux-là, s'ils ne croient pas, même s'ils ont vécu avant le prophète Mohammed, ils vont aller en enfer pour l'éternité. Et ceux comme eux, ils adoraient les statues, mais ils n'ont pas entendu de Isa ni de Ismaïl ni d'aucun prophète, ils vont au paradis, même s'ils sont mécréants. Parce qu'ils n'ont pas entendu l'appel à l'islam. D'accord ? D'ailleurs, quand le prophète il a envoyé une lettre à Héraclius, le roi le roi des Romains, et donc qu'est-ce qu'il a il a dit, il a dit à Khosroès aussi, il disait Muhammad Abdullah Rasouli, il a Kisra à Khosroès, il disait quoi? Aslim taslam, c'est-à-dire rentre en islam, tu seras sauvé. Fa in tawallayta fa inna alayka ithm Ifmal Arisiyin, c'est-à-dire tu auras un péché et tu seras chargé d'un péché de ton peuple. Ici, ça montre quoi? Ça montre que du moment que tu as entendu qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le Messie de Dieu, tu n'as pas d'excuse. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut raisonner que la raison confirme qu'il y a un créateur, et donc ce message-là est conforme à la raison. Qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas d'excuses. S'il n'a pas entendu les détails, ce n'est pas une condition d'entendre les détails, de faire une formation détaillée, ce qui est le prophète, qu'est-ce qu'il fait, non. Qu'est-ce qu'il dit en détail, non. S'il a entendu la base de l'appel d'islam, il n'a pas d'excuses. D'accord? Donc, tout ça, ce qu'on peut être utile, c'est que pour les musulmans, même s'il a fait des grands péchés. D'accord? Mais pour les mécréants, c'est trop tard. D'accord? Et pour le musulman, par exemple, il y a le hadith, on lui rappelle les deux témoignages. Et là, les anges ne l'interrogent pas. Talqin. On lui rappelle les deux témoignages. En arabe, il y a une manière de dire, on lui rappelle les deux témoignages après l'enterrement. Et puis les anges ne l'interrogent pas. Pour le musulman, pour le mécréant, c'est trop tard. S'il meurt, non responsable. S'il meurt, responsable. S'il meurt, responsable. S'ils meurent non responsables, bah, de toutes les manières, ils ne rendent pas des comptes. D'accord? Donc, s'ils meurent non responsables, ils ne rendent pas des comptes. Puis s'ils meurent responsables, ils vont rendre des comptes. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment les règles de base. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour ta question? Parce que je n'ai pas très bien cerné ta question, mais est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est vraiment les sujets de base. Quel paradis l'enfer alors donc parce que si chaque mécréant il peut se rattraper après la mort donc alors il est où le paradis l'enfer tu comprends parce que
ouais, en fait c'est par rapport je veux dire le fait de rappeler les deux témoignages après l'enterrement c'est ce que je voulais dire
oui mais ça c'est pour les musulmans
oui bien sûr
ouais c'est pour les musulmans. Donc ça, c'est vraiment c'est des sujets unanimes. C'est des sujets unanimes. D'accord? C'est des sujets unanimes dans la religion. C'est-à-dire, on ne peut pas... c'est-à-dire, les démentir, c'est démentir la religion, en fait. C'est ça. C'est des sujets qu'on appelle ça connu d'évidence. Vraiment, ça fait partie des bases. C'est connu d'évidence. C'est-à-dire si quelqu'un il sait ces règles-là chez les musulmans et qu'il renie, ça revient à démentir la religion. D'accord? Donc quand est-ce que la personne donc dans les règles musulmanes elle est excusée pour ces règles-là dans le sens que ça nie pas l'islam, c'est quand elle a vécu par exemple jamais elle a entendu ces sujets-là chez les musulmans. Par exemple, si quelqu'un il n'a jamais entendu que chez les musulmans, il y a le paradis, l'enfer, qu'il a renié, il ne sort pas de l'islam. Il va se convertir ou autre cas. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut savoir que la raison. D'accord? Mais s'il sait, même sans aucune preuve, il sait que chez les musulmans, il croit au paradis et l'enfer, et qu'il renie, c'est démentir les musulmans. D'accord? Démentir l'islam qui est confirmé par les musulmans. Par contre, les règles auxquelles on parvient avec la raison, ça, il n'a pas d'excuse, même s'il n'a pas entendu. D'accord? Il y a une différence. Si je juge le paradis, l'enfer, le châtiment de la tombe, on ne peut pas savoir avec la raison. Mais Dieu, il est unique, n'a pas d'associé, rien n'est tel que lui, il est tout puissant, ça, on peut le confirmer avec la raison. Donc le renier, dans tous les cas, c'est de la mécréance. Mais ce sujet-là dont on vient parler, ça nécessite une transmission. Donc si quelqu'un. Il sait que chez les musulmans c'est comme ça, il renie. C'est un démenti. C'est clair en fait, la règle est claire en réalité. Mais s'il n'a jamais entendu chez les musulmans qu'il y a l'enfer, il n'y croit pas. Donc là, il devient pas mécréant. Parce que c'est pas que la raison qu'on veut savoir le paradis, l'enfer, etc. D'accord? Mais donc j'insiste sur le fait que ça nécessite pas. Pour être excusé d'avoir entendu une preuve du Coran et du Hadith. Du moment qu'il sait que chez les musulmans il y a l'enfer, où il y a le paradis, qu'il renie, donc il a démenti les musulmans. Donc ça peut, pour bien cerner les choses, et puis que ça peut vous arriver de discuter avec des gens, etc. Donc, Moi, par exemple, l'autre fois, je lui dis à la personne de dire les deux témoignages. Parce que il vit chez les musulmans, il sait bien que les musulmans, ils disent le châtiment de Latan. Pas comme un nouveau converti ou quelqu'un qui a vécu loin de ce que disent les musulmans. Donc, est-ce que c'est clair? Voilà, on a vu le châtiment. Le prophète, il a vu ceux deux musulmans qui se faisaient châtier et qu'il a demandé pour qu'ils soient allégés de un palme et une branche de palmier. Puis il l'a mis sur la tempe de chacun. C'est-à-dire, on l'a divisé en deux. Alors, oui?
Pour avoir les bienfaits, il faut refaire y aller avec une branche de palmier ou il est possible de le faire avec plusieurs.
Ce qu'on sait, c'est avec toute plante verte en fait.
Ah,
Avec toute plante verte, on peut faire. Donc, il sache qu'il a été confirmé dans les nouvelles rapportées sur que l'âme retourne au corps dans la tombe. Comme dans le hadith de Al-Bara ibn Azib qui a été rapporté par Al-Hakim Al-Bayhaqi. Et Abu Uwana, et qui a été jugé sahih par plus d'un savant. Donc ces hadiths rapportés par des savants, etc., avec une transmission sûre. Et dans le hadith marfou' d'Ibn Abbas, donc, ma min ahad yamur ala qabri akhihi al-mu'mini kana ya'rifu fi dunya, fayusallimu alayhi illa 'arafahu wa radda alayhi salam. Donc, qui signifie, nul ne passe auprès de la tombe de son frère croyant qu'il connaissait dans le bas-monde et qu'il ne lui passe le salam sans que celui qui est mort le reconnaisse et lui rende le salam. Donc, cela implique que donc l'âme revient au corps entier et c'est le sens apparent du hadith ou une partie du corps. Donc là, il dit qu'il le reconnaît. C'est un hadith très connu, qu'on passe le salam, quand on passe au cimetière, on passe le salam déjà aux musulmans. C'est connu chez les musulmans dans le hadith. On dit Assalamu alaykum ahl al-diyari, min al-muslimin al-mu'minin, wa rahim Allah al-mustaqdimin minkum al-mustakhirin, wa insha Allah, wa inna insha Allah bikum la lahiqun. Et il y a ce hadith-là, on passe le salam aux musulmans, il a dit il le reconnaît. Le prophète, il dit s'il reconnaît, ça veut dire que forcément, il y a une vie dans la tombe. Donc, le retour de la vie dans la tombe est encore plus certain pour les prophètes. Il a été rapporté du hadith de Anas d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour les prophètes, c'est encore plus confirmé. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Rapporté par al-Bahaqi qui l'a jugé sahih, tout comme al-Hafidh qui l'a validé. Ibn Hajar al-Asqalani qui a fait le grand commentaire de Bukhari. Il a dit ce que signifie donc le prophète sont vivants dans leur tombe, ils accomplissent la prière. Bien sûr, la tombe ne touche pas le corps des prophètes, donc ils restent intacts, bien évidemment. Inna Allah harram ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. C'est-à-dire, Dieu a fait que la terre ne consomme pas le corps des prophètes qui reste intact. Et ça, c'est une preuve aussi qu'ils n'ont pas des maladies repoussantes, les prophètes. Si dans la tombe, déjà, ils restent intacts, à que dire alors dans la vie. Ils ont tous une belle apparence, ils n'ont pas les maladies qui repoussent les gens. Donc ça, c'est une preuve, par exemple, de citer à ceux qui prétendent que le prophète Ayoub, il aurait la lèpre ou des choses comme ça contredit la logique dans la religion. C'est que les prophètes, Dieu les a préservés. Et puis, même dans la tombe, alors que dire dans leur vivant. Et puis, ils ont tous une belle apparence. Donc, il y a le hadith long, très connu aussi, rapporté par le Bukhari Muslim. Aussi, le Bukhari Muslim a rapporté de Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Ce qui signifie quant à l'homme, quand l'homme est déposé dans sa tombe et que ses compagnons le quittent, il entend le bruit de leurs semelles et lorsqu'ils sont retirés, deux anges viennent à lui. Le font asseoir et lui disent « Que disais-tu à propos de cet homme Muhammad ?» Ainsi le croyant accomplit, c'est-à-dire là il parle du bon croyant, dira « Je témoigne qu'il est l'esclave de Allah et son messager. » Alors on lui dira « Regarde la place en enfer que tu aurais eu, Allah te l'a échangé contre une place au paradis. » Il les verra toutes les deux. Donc ça va, c'est-à-dire que ça l'augmente en joie. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, c'est-à-dire il se montre musulman mais il est mécréant, on a affaire. Il dira « Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient de lui. » Alors on lui dira « Tu n'as rien su, tu n'as rien dit. » Puis il sera frappé entre les deux oreilles avec une masse de fer et criera d'un cri qu'entendront tous ceux qui se trouvent aux alentours, sauf les humains et les djinns. Sauf les humains et les djinns. Donc, sauf les humains et les djinns n'entendent pas. Dieu leur a voilé. D'après Abdullah ibn Amr, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité les examinateurs de la tombe, c'est-à-dire les deux anges qui interrogent en fait, Omar ibn Khattab, que Allah l'agré, alors a dit « Est-ce que nous reprendrons conscience au messager de Allah ?» Il a dit « Na'am ka hay'atikum liyawm » rapporté par le Bukhari, qui signifie « Oui, comme vous l'êtes maintenant ». Ça fait conscient. Omar, c'est alors tu es arrêté de parler. D'après Abu Huraira, que Allah l'agré, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc c'est un autre long hadith qui montre pareil. Donc, il a dit إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ الْإِنسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُنْكَرْ وَلِلْآخَرِ نَكِيرٌ فَيَقُولَانِ لَهُ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك فإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله Ce qui signifie, quand le mort ou l'homme est enterré, vient à lui deux anges bleus noirs. L'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Ils lui disent, que disais-tu de cet homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il dit alors ce qu'il disait auparavant. S'il était croyant accompli, il dit, c'est l'esclave de Allah et son messager. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Les anges lui disent, certes nous savions que tu dirais cela. Puis sa tombe s'est élargie de 70 coudées sur 70 coudées, et illuminée pour lui. Puis on lui dit, dors, alors il dort du sommeil du marié qui ne sera réveillé que par l'être le plus cher de sa famille. Jusqu'à ce que Allah le ressuscite de cette couche. S'il était hypocrite, il dit « Je ne sais pas, j'entendais les gens dire quelque chose, je disais comme eux. » Ils lui disent « Certes, nous savions que tu dirais cela. » Puis il est dit à la terre de se refermer, et elle se referme sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Il reste dans le châtiment jusqu'à ce que Allah Ta'ala le ressuscite de cette couche. De son, voilà. Donc de cette couche, pour dire, en fait, en réalité, c'est pas... ça ne veut pas dire qu'il est apaisé, comme disaient justement certains, c'est les égarés là, qui font des vidéos là, en ce moment. Il y en a très connu, il fait des vidéos, il dit oui, il cite des versets que soi-disant, non, ben, il n'y a pas de châtiment parce que, il dit, regardez, ils dormaient. Ici, couche, ça ne veut pas dire qu'il dort tranquille. Donc c'est de cet état-là. Et puis, comme on l'a dit, arrivé dans l'au-delà, il sait la vérité, mais c'est trop tard. Donc là, parce que les anges, quand ils disent « nous savions que tu allais dire cela », ça veut dire que tu parlais du passé. D'accord? Quand ils l'interrogent, les anges, pour qu'ils parlent du passé. Donc c'est une nuance importante ici. Parce que dans l'islam, si on sait que quelqu'un va dire une bêtise, on n'a pas le droit de l'inciter à dire la bêtise. Donc ça, c'est important. Quelqu'un, il va dire la mécréance, on ne pose pas une question si on sait qu'il va dire la mécréance. On ne dit pas à quelqu'un quelle est ta religion, ou quelle est ta, si on sait qu'il va dire la mécréance. Mais si on dit à quelqu'un, même un converti, on dit « Ah, t'étais de quelle origine ?» Si quelqu'un dit « J'étais chrétien », c'est pas de la mécréance, il parle du passé. D'accord? Tu dis « Pardon, mon frère converti, t'étais de quelle origine ?» S'il dit « Juif » ou je sais pas, là il parle du passé. D'accord? Et là, les anges l'interrogent pour le passé. Qu'est-ce que tu disais? Ils n'incitent pas à dire la mécréance. D'accord? C'est important. Parce que les anges ne vont pas inciter à dire la mécréance. Donc, il dit, qu'est-ce que tu disais? C'est quoi les bêtises d'avant? Quelqu'un qui raconte les bêtises d'avant, c'est pas la mécréance, c'est parle du passé. D'accord? Vous voyez la nuance? Donc, les anges ne l'incitent pas. Ils savent bien que maintenant, il sait la vérité. Quand il est mort, il sait la vérité, mais c'est trop tard. Donc, il l'impose sur le passé. D'accord? Parce que quelqu'un dans le présent, on n'a pas le droit de l'inciter à dire la mécréance. On ne pose pas une question à quelqu'un qui va l'amener à dire la mécréance. Même si il est déjà mécréant, à chaque fois qu'il va dire la mécréance, ça augmente en mécréance. Ça, on l'a vu. Il y a un verset, il y a une preuve toute facile dans le verset. Allah dit dans le Coran, « Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri » Il parlait des gens qui rendaient licite ce que Dieu interdit. Il parlait de mécréants. Il disait « ziyada fil kufri », c'est-à-dire augmentation en mécréance. C'est-à-dire ça l'augmentait en leur mécréance, ces gens-là. Parce que beaucoup d'ignorants, ils croient que ah, ça y est, les mécréants, de toute façon, vas-y. Pour eux, soi-disant, il fait le haram, il fait... Pour eux, c'est normal. Comme donner à manger pendant Ramadan. Ah, je bois pas l'alcool, mais je vends à des non-musulmans. Donc ça, c'est noter les péchés, même pour le non-musulman, la mécréance à chaque fois qu'il fait, ça va l'augmenter en péché. C'est logique. Donc, voilà ce que ça veut dire de cette couche, ça veut dire de cette situation. Ça veut pas dire qu'il ait été apaisé. Ou... Comme dans le verset, dans le verset justement qui cite eux, donc c'était, il y a le mot... Dans Sourate Yassin, voilà. Dans Sourate Yassin, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد صدق المرسلون. Donc, من مرقدنا ici ne veut pas dire qu'ils dormaient tranquilles. De la situation, ils étaient. De la situation, ils étaient. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ces deux hadiths ont été rapportés par Ibn Hibban, qui les a jugés sûrs. Les deux hadiths longs qu'on a cités. Ibn Hibban, c'est un savant de hadith. Dans le premier, il y a la confirmation du retour de l'âme au corps et de la perception sensorielle dans la tombe. Donc la terre se resserre sur lui, etc. Donc c'est pour les mécréants et pour certains musulmans désobéissants. Bien sûr, ce n'est pas l'extrémisme de l'outrance de certains qui disent que ça se resserre sur tout le monde, la tombe aussi. Il y en a dans un extrême, il y en a dans l'autre. Non, ça se resserre pour le mécréant et certains musulmans grands pécheurs. Pour le bon musulman, au contraire. C'est élargi. Donc il y en a, ils inventent des hadiths là-dessus, et c'est faux, complètement. Donc, Dans le deuxième, il y a confirmation de la présence de l'âme dans la tombe et la confirmation du sommeil, ce dont le corps n'est pas assimilé. Le sommeil pour le bon musulman. Donc. Mais créons, il n'y a pas ça. Il se fait châtier. Après, quand le corps est assimilé, l'âme, elle part vers compléter le châtiment où? Dans la septième terre, c'est Jin. C'est Jin qui est cité aussi dans la septième terre. Cette terre, dans la septième, il y a un endroit. À part l'enfer. L'enfer, c'est encore plus bas. Tout seul, l'enfer, c'est en bas de la septième. Mais dans la septième terre, il y a un endroit, ils se font châtier les âmes des mécréants. D'accord? Donc les terres, bien sûr, sont séparées. Hein. Donc cette félicité sera pour le croyant fort, qui sera acquitté des obligations et qui se sera acquitté des obligations et gardé des péchés. C'est celui à propos duquel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Ad-dunya sijnul mu'mini wa sanatuhu. Fa idha faraqa ad-dunya faraqa as-sijna wa as-sanah." Rapporté par Ibn Hibban qui l'a jugé sûr, ce qui signifie le bas monde et la prison du croyant. Et sa demeure de faim et des épreuves. Ainsi, lorsqu'il quitte le bas monde, il quitte la prison et la demeure de la faim et des épreuves. Il s'agit ici du croyant accompli. Ensuite, lorsque tout le corps est assimilé, qu'il ne reste plus que le petit os appelé Rujbuz Zanab, il y a un petit os en bas de la colonne vertébrale, vraiment tout petit, l'âme, il reste celui-là, l'âme du croyant pieux va au paradis. Il va au paradis. C'est-à-dire, ça, c'est avant la fin du monde encore. D'accord? Parce que après la fin du monde, tout ça, au final, ça sera corps et âme au paradis. D'accord? Mais ça, c'est avant. Ce qui se passe, c'est-à-dire avant, maintenant, etc., jusqu'à les gens ils meurent, tout ça, ça se passe. Ce qu'on a dit. Mais au final, quand il y aura la fin du monde pour tout le monde, c'est là que les gens rencontrent corps et âme au paradis, corps et âme en enfer. Donc l'âme du croyant pieux va au paradis. Quant aux désobéissants musulmans, ceux qui commettaient les grands péchés, ils sont morts sans se repentir. Après l'assimilation du corps, leur âme vont dans l'espace compris entre le ciel et la terre et certains dans le premier ciel. Les désobéissants, c'est certains dans le premier ciel, certains entre ciel et terre. Les âmes des mécréants, après la désintégration du corps, vont à Sijjin, qui est un endroit sur la terre la plus basse. Quant aux martyrs, leur âme montre immédiatement au paradis. Martyrs, donc, sûrement musulmans, bien sûr. Martyrs de combat ici. Donc, leur âme monte immédiatement au paradis. Donc, les avertissements, les prophètes, les martyrs du combat, ainsi que les enfants, ne sont pas concernés par l'interrogatoire des deux anges. Si quelqu'un dit comment est-ce possible d'interroger un si grand nombre de morts, la réponse se trouve dans le parole de Al-Halimi, un savant, il a dit « Ce qui est le plus apparent, c'est que les anges de l'interrogatoire représentent un groupe nombreux. Certains sont appelés Munkar et d'autres Nakir. Pour chaque mort, deux d'entre eux sont envoyés. » Donc voilà, donc il dit « Le plus apparent, ça serait que il y a un groupe appelé Munkar et un groupe appelé Nakir. » Et chaque mort, il y en a deux qui partent le voir. Donc il a été cité qu'ils ont la voix comme le tonnerre, les yeux comme des chaudrons et les canines comme des cornes. Mais le musulman accompli, bon musulman, il sera pas terrifié. D'accord? À leur vision, parce que Dieu apaise il l'apaise. Il sera apaisé et puis lui, il sait répondre. Donc les prophètes ne seront pas interrogés. Donc les martyrs de combat, ainsi que les enfants qui meurent avant la puberté. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, donc on a expliqué sur le châtiment de la tombe. On a dit l'âme du croyant va au paradis, le bon musulman, et le martyr immédiatement, oui, elle va au paradis. Vous avez un détail? Oui, est-ce qu'il y a une question? Ah. C'est clair pour vous? Donc il a été rapporté aussi que celui qui récite Sourate al-Mulk tous les soirs, ça évite le châtiment de la tombe. Il y a ce talqin qu'on a dit qu'on fait donc, pour le musulman. Donc après sa mort, on reste auprès de la tombe et on dit le talqin. Ya Abdallah ibn Amatillah. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما محمد النبي. Donc en fait on s'assoit à côté de sa tombe puis on lui dit, on l'appelle trois fois. Il a été cité que première fois il se réveille, deuxième fois il s'assoit, troisième fois il dit Arshidna yarhamuk Allah, c'est-à-dire guide-nous, que Allah te fasse bien. Ça veut dire, ça montre que, eh ben, en fait, il est utile d'un côté aussi, parce qu'il fait du'a. Dans l'autre hadith, il rend le salam. Donc, ça réplique à ceux, aux extrémistes là qui nient cela. Et on lui dit, Uzkur l'ahda, la vie kharajt alayhi n'ad-dunya, c'est-à-dire, rappelle-toi sur l'état dans lequel tu as quitté le bas monde, le témoignage qui n'est de Dieu que Allah. شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا c'est-à-dire tu رضيت c'est-à-dire tu agréé tu approuves Allah comme Seigneur رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي donc et والقرآن وبالقرآن إماما. Donc le Coran en tant que guide, le prophète Mohammed en tant que prophète, et l'islam en tant que religion. Donc tu as suivi cela. Et c'est là, les anges, il a été rapporté, ils s'en vont, ils ne l'interrogent pas. D'accord. Donc là aussi, on voulait citer que... donc les martyrs de combat, donc eux, leur âme monte. Leur corps reste intact et leur âme monte au paradis et elles sont dans l'intérieur d'oiseaux qui vont dans des endroits au paradis. Donc ça, c'est avant la fin du monde. D'accord. Et les saints, leur âme prend la forme d'oiseau ici. Et elle va manger des fruits du paradis. Mais dans autre l'endroit qu'ils auront au final. Un endroit autre que l'endroit qu'ils auront au final. Donc ça, tout ça avant la fin du monde. D'accord. Parce qu'après, ils auront commencé la taille de Adam, etc. etc. Quand ils rentrent au paradis... corps et âme. C'est clair? Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad wa ala Amin. Allahumma razaqna amal nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Rabbana atina fi dunya hasana, fil akhirati hasana, wa qina azab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات